Actu SF, les podcasts.
Bonjour. Bienvenue à la conférence illustration. Je vais faire une petite présentation. Sandrine Jassin, qui a été l'illustratrice qui a cette année, nous a offert un magnifique dessin que vous avez sur la couverture des Aventuriales. C'est une peinture, pardon. Cindy Canevet, que vous pouvez découvrir dans le hall d'entrée des Aventuriales. Et Tiff, que vous pouvez découvrir juste à côté de la buvette. Elles vont se présenter elles-mêmes, parce qu'elles vont le faire bien mieux que moi.
Alors, bonjour à tous et toutes. Donc, je m'appelle Sandrine Jassin. Je suis peintre illustratrice depuis 25 ans à peu près. Que dire de moi? J'ai commencé par les couvertures de livres de poche, en fait. Ensuite, j'ai commencé à présenter mes textes à quelques éditeurs. Et maintenant, je travaille exclusivement pour Au bord des continents, où je crée mes livres. Je suis donc auteur, illustratrice, et puis je fais aussi des mises en page et tout ça. En fait. Je consacre tout mon temps à ça, pour l'instant.
Alors, bonjour. Donc, comme a dit Anna, je suis Cindy Canevet, je suis illustratrice et graphiste. Donc, c'est un peu plus récent, ça va faire à peu près un an que j'ai vraiment commencé mon activité. Je travaille un peu, on va dire, principalement sur des couvertures de romans. Donc, que ce soit l'illustration, un peu de graphisme, et un peu d'illustration libre aussi à côté. Et je commence à vraiment envisager des projets un peu plus conséquents au niveau de livres illustrés ou un peu de BD. Voilà, c'est des choses qui vont dépendre de ma formation, donc c'est des choses que je garde en tête et pour évoluer par la suite.
À toi. Bonjour, donc moi c'est Tiffs. Je suis graphiste illustratrice aussi. Donc, à la base, j'ai commencé avec une formation de graphiste et je suis illustratrice plus ou moins autodidacte. Parce que j'ai vraiment une formation de base sur la pub. Donc, je suis à mon compte depuis 2012. Et c'est mon activité à temps plein. Donc, je fais aussi bien des illustrations pour des couvertures de romans que de la cartographie pour tout ce qui est monde, fantasy, etc. Et je fais aussi du graphisme de base, entre guillemets, mais tout ce qui est maquette de romans, ce genre de choses pour des maisons d'édition. Voilà.
On va enchaîner avec la première question. Justement, on a toutes les trois, vous êtes des illustratrices, mais vous êtes aussi des stars, mais vous êtes relativement connues, justement pour le travail que vous faites sur les couvertures de romans. Est-ce que c'est un travail très particulier, très compliqué? En quoi ça consiste, justement, de faire une couverture de roman?
Mais déjà, en fait, la couverture, moi, j'en fais plus, mais j'en ai eu fait beaucoup. En fait, c'est donner envie au lecteur de s'approcher du livre. L'auteur est très connu, la couverture a une moindre importance, mais comme la plupart du temps, les auteurs sont moyennement connus. Il faut donner envie, il faut attraper le lecteur en fait, il faut attraper le futur lecteur, il faut vraiment lui donner envie et c'est capital, même si effectivement auprès des éditeurs ils minorent ce rôle parce qu'ils minorent généralement la rémunération, ça c'était, je pense que c'est toujours d'actualité. Mais c'est primordial, vraiment c'est primordial, c'est souvent la première approche vers un livre et c'est capital.
On dit que la couverture du roman, elle a 8 secondes pour captiver le lecteur et pour qu'il tourne le roman afin de lire la quatrième de couverture. Vous êtes d'accord?
Et oui, totalement, parce qu'en fait, surtout sur les étalages des librairies ou ce genre de choses, il y a énormément de couvertures. Donc si l'illustration qu'on fait ne se démarque pas, et c'est pour ça aussi qu'il faut être au courant de ce qui se fait actuellement, si la couverture qu'on fait ne se démarque pas, les gens ne vont pas forcément s'y arrêter, et même s'ils s'arrêtent et que ça ne leur évoque rien, ils ne vont pas prendre le livre en main, ils ne vont pas le retourner. Là, la couverture, elle doit vraiment leur donner envie de prendre le livre, de s'en approcher et surtout de le prendre.
On voit bien en bas, dans la salle, vous voyez bien le millier de livres qu'il y a. évidemment, vous ne pouvez pas vous arrêter et retourner regarder la quatrième de couvre de chacun. Donc forcément, qu'est-ce qui va vous attirer vers un livre?
C'est la couverture.
Sinon, bien sûr, il y a des auteurs connus, donc là, vous approchez quand même du stand, mais parmi tous les ouvrages qu'il a fait, il y a quand même la couverture qui va vous appeler vers un titre et ou un autre.
En effet, c'est vraiment pas une simple illustration pour le plaisir qu'on fait. Il y a vraiment une démarche professionnelle derrière où on va s'adapter. Donc, on va partir de notre sensibilité à nous, mais on va l'adapter à l'éditeur, à l'auteur et aux personnes qui vont s'intéresser au livre. Donc, il y a toutes ces variables à prendre en compte et c'est vraiment une démarche très, très réfléchie et qui rentre dans le processus de création du visuel de la couverture.
Et en fait, il faut effectivement déjà que ce soit visuellement intéressant pour le lecteur, mais aussi il faut arriver à faire une synthèse, à parler du livre. Donc, moi j'ai trouvé que généralement il y avait deux démarches. Soit je prenais une scène assez marquante, mais qui dévoile quand même pas la fin, et donc j'illustrais cette scène-là. Et soit j'arrivais à en faire la synthèse et à donner un peu l'ambiance du livre. Je trouve que cette deuxième démarche est parfois plus difficile à faire, mais elle est plus... Parce qu'en fait, une couverture, c'est un peu comme une affiche. On a effectivement quelques secondes pour capter le lecteur, et une affiche, c'est ça, en fait. Donc, pour moi, une couverture bien réalisée et puis vraiment efficace, c'est comme si j'avais fait une affiche et que j'avais réussi une affiche. Attraper le lecteur.
C'est ça, en sachant aussi que quand on fait des couvertures de romans, on n'a pas le temps de lire les romans qu'on illustre. Pas en tout cas à 100%.
Pourquoi ouais, je les lisais?
Parce que ben, je les lisais au début, mais en fait après quand les demandes arrivent, donc on me dit voilà, j'ai un bouquin de 500 pages à te faire illustrer, ça serait bien que tu connaisses l'histoire. Ouais, mais c'est pas mal d'heures de lecture quand même, un bouquin de 500 pages. Donc...
Ceci dit, moi mes meilleures couvertures ont été réalisées à partir de résumés.
Oui, voilà.
Parce que justement, la personne qui m'a fait le résumé, souvent l'auteur, a fait une synthèse déjà, donc elle a un peu pré-mâché le travail en fait, et elle a fait la synthèse de son propre roman, et du coup on en capte les éléments essentiels, et je trouve que c'est la meilleure façon de faire une belle couverture.
C'est ça, surtout qu'après, bon, l'auteur il connaît son roman, il le connaîtra mieux que nous, et si son éditeur le laisse faire, il pourra aussi nous guider sur ce que lui aimerait, qu'est-ce qu'il aimerait dire en fait, donc qu'est-ce qu'il aimerait mettre en avant dans son roman. Donc après, nous c'est aussi notre boulot de savoir si son idée est vendeuse ou pas, ça l'est pas toujours. Et de sublimer ça et d'en faire un visuel adéquat.
Alors moi, je vais parler de l'auteur, justement, parce que moi, je suis auteur. Et le premier livre que j'avais signé avec un éditeur, l'éditeur m'avait envoyé une couverture. Quand j'ai vu la couverture, j'ai failli pleurer. J'ai dit, mais c'est pas du tout mon roman. C'est une romance fantastique et il m'avait envoyé une couverture qui ressemblait, alors je ne critique pas les Arlequins, hein, parce qu'ils en vendent des milliers hein, tous les ans, il faut le savoir, mais en fait ça ressemblait à une couverture pour un roman Arlequin, alors que moi c'est un roman fantastique, c'est de la romance fantastique. Il n'y avait pas du tout la notion de fantastique, ça ne ressortait pas du tout. Mon livre s'approche du steampunk sans en être. Il n'y avait pas du tout la notion un peu steampunk, un peu fin 18e, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. C'était une romance. Il avait fait une couverture pour un arlequin, pour une romance. Il n'y avait aucune substance du roman à l'intérieur. Et il m'a envoyé une deuxième proposition en fonction de ce que je lui ai dit. Et là, j'ai dit, mais tu ne l'as pas lu, mon roman, c'est pas possible. Tu m'as signé mon roman, tu ne l'as pas lu. Et il me dit, si, je l'ai lu, mais tu comprends, c'est difficile. J'ai donné les informations que tu m'as dit à l'illustrateur, et puis il a fait ça. J'ai dit, mais je ne peux pas travailler directement avec lui. Ah ben nous, on ne travaille pas comme ça à la maison d'édition. Ben, j'ai dit, c'est bien dommage. Et puis je l'ai tellement harcelé, ça a mis 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'ai travaillé directement avec l'illustrateur, et on est enfin arrivé à faire quelque chose.
Et en fait, les éditeurs, ils appliquent la politique de diviser pour mieux régner, en fait. C'est-à-dire que. Évidemment, ils ne veulent pas que les choses leur échappent. Donc, que l'illustrateur travaille directement avec l'auteur, et effectivement, il y a des maisons d'édition qui ne veulent pas, parce que ça va leur échapper, en fait. Ils vont faire, en fait, les deux, ils vont faire leur petite cuisine dans leur coin, et ça va échapper à l'éditeur, et il y a des éditeurs qui n'aiment pas ça.
Ouais. Après, c'est vrai qu'il faut voir aussi, l'éditeur est un chef d'entreprise, hein, on a beau parler de l'amour du livre et tout, il faut quand même que le livre se vende. Et pour avoir bossé avec des éditeurs qui laissent l'illustrateur et l'auteur communiquer, ou d'autres qui coupent, ils veulent vraiment pas que, voilà, s'ils nous disent, si l'auteur vous contacte, vous ne lui répondez pas, enfin vous lui dites oui, mais je vois ça avec ton éditeur. C'est, pour moi, c'est deux manières de travailler qui se valent, parce que les auteurs n'ont pas toujours... Enfin, ils ont une idée qui sont très précises, c'est leur bouquin, ils veulent qu'il soit le plus beau possible, c'est leur bébé. Et ça compte tellement, il y a tellement un côté affectif qui est fort, qu'en fait, c'est très difficile de réussir parfois à argumenter avec ces personnes, à leur faire passer les idées qu'on a et qu'on estime vendeuses, et qu'ils ne comprennent pas toujours.
Ils n'ont pas forcément le recul qui est nécessaire.
C'est ça. Après, bon, c'est pour moi, ça serait logique que l'auteur ait au moins son mot à dire dans la conception de la couverture.
Je pense que l'idée du résumé est assez probante. C'est vrai, c'est l'auteur qui a écrit son livre. Et même si on nous prête des fois des intentions, moi j'adore quand on nous fait des chroniques sur les livres en nous disant « l'auteur a voulu dire ». Non, pas du tout. Mais bon, ça c'est une anecdote. Mais c'est vrai que l'idée du résumé me semble intéressante. C'est ce qu'on a fait pour, c'est ce que j'ai fait pour les deux autres romans, en fait, où j'ai donné le résumé à l'illustrateur et les chiffres, les mots-clés. Il m'avait dit, donne-moi des mots-clés. Et à partir de là, il a fait les couvertures de la complainte. Qui marche, hein, la complainte, ça marche. Par contre, pour l'anthologie, là où je suis aussi, c'est l'éditeur qui a tout choisi, il a tout fait. Il y a quelques auteurs de l'anthologie qui ont dit « oh, oh, oh », et en fait, ça cartonne. Elle marche super bien, parce que justement, la couverture est très particulière et attire vraiment le regard.
Ah, moi, je suis tout à fait d'accord. Après, c'est vrai que je souligne un peu, ça a été dit, mais en fait, selon les éditeurs, il y a énormément de façons de travailler. Donc il y en a qui ne vont pas du tout nous mettre en contact avec l'auteur, d'autres qui vont vraiment privilégier cette relation, et en fait, il faut un peu s'adapter à chaque fois. Et du coup, ça implique de s'adapter, puis aussi d'arriver vraiment à gérer ça aussi selon ce qu'on nous demande et ce que ça implique derrière. C'est
une petite aparté qui n'a rien à voir avec la question, mais moi j'ai beaucoup aimé faire des couvertures quand j'ai commencé ma carrière d'illustratrice, parce qu'en fait, en tant que créateur, on a vite tendance à s'enfermer dans quelque chose qu'on sait faire. Et la couverture m'a mise devant le fait qu'il y avait certaines choses que je ne faisais pas. Par exemple, je faisais des portraits avec des fonds abstraits à l'arrière, en arrière-fond. Il s'est trouvé très judicieux que je fasse un personnage avec un ciel très orageux, etc. Et au départ, ça m'a un peu perturbée. Et je me suis forcée parce que ça c'était nécessaire. Et j'ai découvert ça et j'ai adoré. Et donc, en fait, souvent, ça nous pousse dans le retranchement. Et ça nous fait évoluer. Enfin, moi, ça m'a fait évoluer dans ma peinture, en fait, dans mon illustration et ce que je pouvais aborder comme thème. Et ça a élargi ma peinture et ma création. Donc je suis très contente de ça.
Merci pour cette intervention, parce que justement, on va du coup passer à la deuxième partie, deuxième question. Le travail d'illustratrice ne se résume pas à faire des couvertures. Quels sont vos autres domaines de prédilection ou d'action dans le monde, toujours dans les mondes de l'imaginaire?
Alors, personnellement, j'ai eu cette première période qui a duré une dizaine d'années où j'étais au service des auteurs et parallèlement, j'avais des velléités d'écrire et je ne sais pas, en fait. Il s'est trouvé que là, il y a eu une synergie entre la rencontre d'un éditeur, Patrick Jezekel, au bord des continents. Et puis voilà, j'ai commencé par me proposer de faire un livre de mes images en tant qu'illustratrice. Et puis timidement, je lui ai demandé, j'écris un peu, est-ce que éventuellement je pourrais faire le texte? Et il m'a dit, pourquoi pas? Il est très ouvert à ça. Et il m'a dit, proposez-moi un texte. Et j'ai écrit tout l'été pour lui proposer mon texte à la rentrée. Petite anecdote, je lui envoie par mail et puis j'ai pas de réponse au bout de 15 jours. Il dit, il déteste et il n'ose pas me lire. Il sait pas comment me lire, en fait. Et non, il était parti en vacances, parce qu'il avait des vacances décalées. Et à son retour, il me dit « Ah, je suis heureusement surpris !» Et puis voilà, et ça fait 10 ans qu'on collabore. Donc, du coup, pour répondre à ta question, maintenant j'écris mes textes, je les illustre, et puis donc je fais dessin, peinture, etc. Et je fais la mise en page aussi, donc j'ai plusieurs casquettes. Et donc en fait, je fais en gros un livre de A à Z, de l'idée première à la réalisation à la réalisation totale, car j'envoie même les fichiers à l'imprimeur directement. Bien sûr, ça a été relu hein, par l'auditeur, corrigé, mais on a toutes les casquettes.
Justement, quand on touche à toute cette notion d'image, on peut voir qu'il y a quand même pas mal aussi de livres, comme tu disais, les livres illustrés, tout ce qui est roman graphique, roman illustré, un peu entre les deux. C'est des choses qui se développent et qui sont vraiment appréciables dans l'imaginaire. Des fois, ça peut aller plus loin, mais voilà, ça, c'est quelque chose qu'on peut observer et qui est vraiment très intéressant à travailler. C'est un travail un peu plus conséquent que simplement se limiter à la couverture, forcément, mais c'est très riche et c'est vraiment intéressant.
Ouais, bah, surtout quand on écrit, parce que du coup, j'écris aussi et je suis, ça fait un peu plus de 5 ans maintenant que je fais ce travail-là. Et pareil, au début, je faisais que les couvertures de romans, puis après, je me suis un peu décalée vers la cartographie. Mais comme j'écris, ben, maintenant, je commence vraiment à me sentir relativement bien dans mon boulot. Je commence aussi à envisager des romans illustrés, ce genre de choses. Et c'est vachement chouette de se dire qu'en fait, ben, on est capable de créer un univers, mais en plus de le mettre en image. C'est un côté super gratifiant.
J'ai sorti un jeunesse l'an dernier, illustré totalement. Et j'avais écrit une nouvelle qui était, voilà, qui était sympathique, mais qui ne suffisait pas en elle-même pour sortir un petit roman. Et j'ai rencontré une illustratrice qui m'a scotchée. J'avais fait un appel sur ma page pour que des illustrateurs candidatent. J'en ai 3 ou 4 qui ont candidaté, les images ne me plaisaient pas. Puis elle m'a dit « Oui, moi ça m'intéresse, mais j'ai pas trop de temps. » Du coup, j'avais plus ou moins laissé tomber le projet en me disant « Bon, en fait, finalement, ça vaut pas le coup. » Et un jour, je reçois par mail une illustration, et là, je me suis dit, voilà. Elle avait capté l'essence du texte, et elle a fait tout un travail super derrière. Vraiment, elle a mis en image le texte. Mais vraiment, elle lui a donné une vie. Et les gens qui ont lu, qui ont acheté le livre, ils ont acheté les images, ils n'ont même pas acheté le texte, ils ont acheté les images.
C'est vrai qu'en fait, quand on est illustratrice, on est au service de l'œuvre de quelqu'un. On apporte sa touche, évidemment, assez primordiale. Mais quand on est auteur, on est vraiment créateur à 100%. Et alors, il y a des illustrateurs à qui ça ne plaît pas du tout, en fait, qui n'ont pas du tout envie. Et puis, il y en a d'autres qui en ont besoin. Et moi, je fais partie de ceux-là, mais je crois que vous deux aussi. Et on s'exprime totalement et on exprime son univers en fait à soi, et ça c'est quand même appréciable aussi.
Ouais, je sais que quand je travaille, j'ai un trop plein. De travailler pour les autres, c'est vachement stimulant, parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça nous pousse aussi à nous dépasser, à explorer des trucs qu'on n'aurait jamais fait. Pareil, je dessine énormément de personnes et de créatures, mais par contre tout ce qui est paysage et surtout les bâtiments, voilà, j'ai dû m'y mettre parce qu'on m'en a demandé. Et au final, c'est très appréciable de diversifier son truc comme ça. Mais j'ai perdu ce que je voulais dire, en fait.
C'est pas grave. Ça reviendra.
Quelle est la place, justement, de tous ces livres illustrés dans les librairies? Est-ce que vous avez l'impression que ça se vend bien? Ça se vend pas bien?
Les livres illustrés ont eu une place qui diminue d'année en année, en fait. Fut un temps où j'ai connu ça, les livres illustrés avaient une vraie place dans les librairies. Il y avait vraiment un rayonnage entier consacré aux livres illustrés, aux beaux livres, dans la fantasy, la science-fiction, etc. Et ça se réduit comme peau de chagrin au fur et à mesure. Donc bon, je constate, je ne peux pas l'expliquer réellement parce que je pense qu'il y a un vrai public. Mais bon, là, c'est questionnement.
Ouais, je me demande si c'est pas le coût de production d'un livre pareil. Sachant que si on veut mettre en librairie, il y a aussi le pourcentage des libraires, etc. Ça réduit vraiment. Par rapport au temps passé dessus, il y a peut-être aussi de moins en moins de gens qui veulent s'y mettre. Ça représente quand même énormément de travail. Et les étalages des libraires sont blindés, en fait. Il y a énormément de bouquins de tous horizons, donc c'est vraiment compliqué.
Pour illustrer cette question et cette réponse, savoir que pour une mise en page d'un livre de 36 pages, si vous l'imprimez en noir et blanc, je peux donner un chiffre, ne vous basez pas dessus. Hein. Mais grosso modo, ça va vous coûter 1 euro en fabrication, suivant la quantité. Si vous prenez le même en quadricouleur, et pour de l'illustration, il faut du quadricouleur, bah, vous allez taper déjà donc, du 5 ou 6 euros pour le même nombre de pages. Voilà. Donc du coup, vous vous rendez bien compte que vous ne pouvez pas vendre le livre le même tarif. Si vous vendez le livre de 36 pages, un tout petit livre jeunesse par exemple de 36 pages en noir et blanc, bah, vous allez pouvoir le vendre je sais pas, à 5, 6, 7 euros. Vous ne pouvez pas vendre un cadre couleur 7 euros si déjà en fabrication il vous en coûte 6. Donc forcément, ça lève le prix. Sachant que là, je parlais que de fabrication. Hein. Derrière, il faut payer l'éditeur, il faut payer l'illustrateur, il faut payer voilà, l'auteur aussi, si possible. Les gens qui ont les camions. Oui, c'est ça, c'est les distributeurs qui prennent. Alors, si vous voulez comprendre dans le débat de fabrication d'un bouquin, vous allez trouver des jolis calendriers un peu partout sur Internet, vous regarderez. En fait, vous apercevrez que l'éditeur et l'auteur sont les deux personnes qui touchent le moins. Les auteurs vont toucher entre 8 et 12% hors taxe du livre. Oui, celui qui touche le plus, c'est l'État. Hein. Ne vous inquiétez pas, c'est lui qui prend la TVA, c'est toujours pareil. L'imprimeur, ben, en fonction de la quantité du livre, il va plus ou moins majorer le tarif. Les livres à la demande, par exemple, qu'on voit sortir de plus en plus maintenant, c'est très cher en fabrication puisqu'on n'en fabrique qu'un. Si vous en fabriquez 1000, ben, c'est déjà vous arrivez à tomber le prix. Si vous en fabriquez 5000, ben, vous descendez encore plus le prix. Et les grosses, grosses maisons d'édition, eux, ils arrivent à fabriquer des grandes quantités et vraiment à réduire le tarif. Donc ils prennent une part. Et après, la grosse part, ça va être le distributeur, celui qui amène les livres de la fabrication jusque dans les librairies, et justement le diffuseur, qui vont être les libraires ou les grandes, les grosses structures que vous avez un peu partout. Donc ce sont les deux gros postes sur le prix d'un roman. Sachant que le libraire, il a des charges fixes, donc il y a beaucoup de gens qui râlent en disant « Oui, mais enfin, le libraire, il prend beaucoup sur le livre. » Oui, mais il a des charges fixes, il a la boutique à payer, il a ses employés à payer. Donc c'est très très difficile finalement de réduire chacun des postes. Et ceux qui sont le plus réduits, bah, ça va être l'éditeur lui-même. Quand il va avoir tout payé, il va avoir payé l'illustrateur, il va avoir payé celui qui va faire la maquette du livre, il va avoir payé l'auteur, bah, il ne va pas lui rester beaucoup. Donc alors, il gagne sur la quantité, mais, et l'auteur aussi, il va gagner sur plus il va vendre de livres, plus il va gagner. Mais c'est ces postes-là qui se réduisent de plus en plus. Justement, on va aborder peut-être la dernière question sur ce point-là. Est-ce que vous avez... Actuellement, il y a un gros problème avec les auteurs qui sont en train de se battre pour essayer de gagner un peu plus ou d'être payés sur différentes actions qu'ils vont mener. Est-ce qu'on ressent le même mouvement chez les illustrateurs? Est-ce que vous avez la sensation que vous êtes reconnus dans votre travail par les éditeurs?
Personnellement, je dirais oui, parce que je travaille avec Patrick Gézékel de Bordeaux Continent, et on a des relations vraiment presque amicales. En fait, on s'appelle toutes les semaines, donc moi, voilà. Évidemment qu'il reconnaît mon travail. Mais c'est vrai que dans d'autres... ils le reconnaissent, en fait, mais jusqu'à un certain point, pour certains.
Bah, disons que c'est surtout difficile quand on débute, quand on se cherche un peu une légitimité. On a beau avoir tous les diplômes qu'on veut, et le book, on commence, on a beau avoir nos connaissances, si on n'a pas un book conséquent avec des bonnes références derrière, c'est plus facile. Ben après, c'est normal aussi, c'est le jeu, les éditeurs qui négocient les prix à la baisse pour les illustrateurs. Mais on commence à avoir du poids. Moi, je trouve que j'ai commencé à avoir du poids il y a un ou deux ans, vraiment, où je commençais à dire, voilà, ben, mes prix, c'est ça. Et on me disait, oui, ok, ça marche. Alors qu'avant, c'était, oui, mais bon, l'édition, ça va pas, et tout, ouais, je sais, mais enfin bon, les factures. Et là, on me disait, oui, mais enfin, mademoiselle, quand on fait de sa passion un métier, faut pas s'attendre à en vivre. Hein. Et c'est des discours qui sont, on les entend, ils sont faciles, et sur des gens qui n'ont pas d'expérience, c'est compliqué. Alors quand, voilà, quand on commence à vraiment s'y connaître, être bien dans son boulot, on peut aussi donner le change en face, et c'est comme ça, je pense, qu'on finit par avoir la reconnaissance des éditeurs aussi.
C'est vrai que c'est une pression un peu perpétuelle, en fait, de tout ce milieu, où quand on commence, on sait pas vraiment à quoi... On n'a pas forcément les bonnes bases, on a peu d'informations, il faut aussi... Par moment, selon les personnes sur lesquelles on tombe, c'est facilement un sujet un peu tabou. Moi je le vois avec si mes anciens collègues de promo, on a tous eu des chemins un peu différents à la sortie du diplôme, mais ne serait-ce qu'à sur la question des statuts, on va avoir ceux qui vont être un peu plus auteurs, un peu plus à la maison des artistes ou aux AGSA, on va être ceux qui vont abandonner tout ce qui est droit d'auteur et vraiment fonctionner au forfait en prenant un statut d'auto-entrepreneur. Mais c'est pas les mêmes charges, enfin, c'est énormément de questions. C'est quand même compliqué de quand on commence. Après, voilà, il faut s'accrocher. Enfin, je donne un peu plus un témoignage, on va dire, de ce que donne une première année d'exercice. C'est beaucoup de questions. Et en même temps, comme tu disais, des fois, il faut commencer à tenir. Ça reste un métier, on le fait. On a de la chance de pouvoir faire un métier de passion, mais en même temps, on le fait aussi pour pouvoir essayer de tendre. Parce que c'est un métier, on n'est plus au stade de la passion. On avait la discussion là au début du débat. Il y a vraiment une démarche. Il n'y a pas que de l'illustration plaisir, il y a vraiment de l'illustration avec une démarche professionnelle. Il y a une approche commerciale. C'est pas un jeu de mots là dans la discussion, mais il y a cette approche commerciale qui compte. C'est un travail,
C'est ça, et c'est quelque chose en fait qu'on n'apprend pas à l'école. Enfin, moi je sais que j'ai appris à dessiner, à faire de la mise en page. Si tu veux faire ça, il faut que tu te mets à ton compte, mais on m'a pas dit au compte de quoi, si c'était NDA, AGSA ou quoi. Puis même quand je suis allée voir, ça dépend ce que tu fais. Enfin, j'ai galéré vraiment pour savoir sous quel statut me mettre. Et après, pour négocier tout, il y a des livres qui expliquent comment le guide du graphiste indépendant, ce genre de choses. Mais c'est vraiment la galère au début pour retrouver ses marques, donc c'est compliqué.
Oui, puis en fait, il faut expliquer aux gens que l'image qu'ils ont sous les yeux, c'est le fruit de compétences. C'est un métier, ce sont des compétences, et que lui, s'il essaie de faire la même chose, lui ou elle, on n'est pas capable. Donc ça veut dire qu'on a une compétence qu'ils n'ont pas. Et toute compétence mérite salaire et doit être rémunérée correctement, en fait. Donc c'est vrai que dans une société judéo-chrétienne, c'est compliqué, enfin je sais pas si c'est parce que c'est judéo-chrétien en fait, mais c'est compliqué à partir du moment où on a un métier passion de justifier, tu as la chance, parce que c'est vrai que c'est une chance, et que plein de gens font des métiers qui ne les intéressent pas, qui sont juste pour payer les factures, et que nous on a une chance de faire un métier passion, mais c'est un métier tout de même en fait. C'est des heures et des heures de travail. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait 35 heures, généralement un illustrateur, il en fait au moins facilement 50, voire 70 quand il y a vraiment des. On travaille énormément, on travaille bien plus que beaucoup de salariés. D'accord, c'est une passion, mais n'empêche qu'on donne de nous-mêmes en fait, réellement, et qu'on travaille, et qu'on se remet en permanence en question, et que c'est une compétence qui doit être rémunérée à juste titre et selon la valeur. Mais au début, je veux bien comprendre, parce que moi, j'ai évidemment commencé comme vous, toute timide et ne sachant pas trop. Et c'est difficile de défendre son bout de gras, en fait. Hein, vraiment arriver à dire, mais non, en fait, je vaux bien ça. Hein, je vaux ça, et c'est une chose assez difficile à faire.
Les auteurs, c'est pareil. Il y a actuellement beaucoup d'auteurs qui ont un travail à côté, parce que vivre de l'écriture n'est pas forcément facile. Et on a aussi de temps en temps des réflexions des gens qui disent tu veux pas m'offrir le livre, parce que quand même alors comment te dire, déjà le livre ne m'appartient pas, il appartient à l'éditeur, donc je veux bien te l'offrir, mais ça veut dire que du coup c'est moi qui le paye. Alors je peux en offrir, hein, ça me fait plaisir de temps en temps d'offrir mes livres, mais je peux pas m'amuser à offrir des livres à tout le monde, parce que du coup et les gens ne comprennent pas ça, ils comprennent pas qu'en fait on a écrit une histoire, mais que l'objet livre ne nous appartient pas, il appartient à l'éditeur en fait. Et on ne peut pas en permanence être gentil et bénévole. On a aussi besoin de temps en temps, on a écrit, on a donné le livre à un éditeur pour qu'il le mette en page, pour qu'il le fasse illustrer, pour que le livre se vende. Du coup, on en retire un pourcentage pour nous. On essaye effectivement ce pourcentage qui soit le plus élevé possible pour envisager de ne plus travailler dans un métier que je vais appeler un métier nourricier, un métier qui nous permet de manger, et que notre passion d'écrire devienne notre gagne-pain en fait. Mais malheureusement, que ce soit pour l'illustration ou que ce soit pour les auteurs, ça ne suffit pas forcément.
Il y a quand même un distinguo à faire entre les auteurs et les illustrateurs, parce que autant on peut assez facilement. Enfin, ça demande beaucoup de travail, bien sûr, mais à avoir un métier, effectivement, un métier, comme tu dis, et puis écrire le soir, le week-end, etc. Autant en tant qu'illustratrice, c'est pas jouable, en fait. Moi, j'ai rencontré il y a très longtemps, effectivement, une éditrice qui me disait, mais vous avez un métier à côté, mais comment voulez-vous que j'arrive à ce degré de technique et de performance technique, réellement, en faisant ça le soir, après un travail. L'illustrateur, c'est généralement, enfin c'est la plupart du temps, c'est un métier à plein temps, parce que pour arriver à ce degré de connaissance de la couleur, de l'image, de la lumière, de la technique, etc., même en plus quand on veut se corriger, faire technique, c'est un travail réellement à plein temps. Et ça, c'est un peu difficile encore à... Enfin, quand, qu'une éditrice qui travaille tous les jours avec des illustrateurs me pose cette question-là, j'étais, mais... Ah bah, zondi, quoi.
Après, je pense aussi que c'est plus facile de réussir à vivre en tant qu'illustrateur qu'en tant qu'auteur, parce que l'auteur, il est cantonné au texte. Voilà, et le texte, ben, il vit comment ? Ben, par un livre. Après, il peut aussi faire des interventions, ce genre de choses, mais c'est plus rare, et c'est en train de bouger avec Paye ton auteur. Mais au niveau de la rémunération, c'est compliqué aussi de ce côté-là. En faire l'illustrateur, il peut tout à fait créer ses propres trucs à côté, donc c'est ce qu'on fait pour les salons, hein, puis aller vendre voilà, ce qu'on a créé sur les salons, ce genre de choses, et exister d'un côté par lui-même, alors que l'auteur a besoin d'avoir un objet, un support en fait, pour ces trucs dans la plupart des cas.
Mais ça, c'est quelque chose qui est apparu assez récemment avec la démocratisation des imprimeurs online. Parce qu'il y a 25 ans, ça n'existait pas, ça, en fait. Les imprimeurs, il fallait tirer 500 exemplaires, 1000 exemplaires de quelque chose, et c'était absolument pas dans les mentalités, en plus. Donc ça apparaît, quoi, depuis 10 ans, 15 ans, peut-être, avec le fameux pizza printing et puis tous ces imprimeurs en ligne. Et c'est quelque chose, effectivement, qui apparaît maintenant, qui est bien installé, mais c'est récent. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé, il était hors de question que j'arrive avec mon propre matériel. Et puis de toute façon, je n'avais pas les ressources pour le faire, en fait, parce que je n'avais pas tiré 1000 exemplaires d'un poster ou d'une affichette. C'était trop conséquent, en fait. Donc c'est effectivement, maintenant, avec les illustrateurs sont obligés de multiplier, du coup, les festivals. Donc en fait, moi je connais des illustrateurs qui sont, c'est presque leur métier, leur deuxième métier, en fait. C'est-à-dire que dans un mois, ils font 2-3 festivals, en fait. Ils sont tout le temps sur les routes pour gagner leur vie, en fait, mais c'est aussi leur liberté.
Alors les auteurs aussi, on n'arrête pas de faire des festivals. On se promène beaucoup, on fait des salons. Là, moi, heureusement, j'ai mes enfants qui sont grands, parce que en fait, les quatre week-ends d'affilée, je suis pas à la maison, parce que voilà, la semaine au boulot, les week-ends sur les routes pour aller faire des salons, pour proposer des livres, pour vous accueillir aux aventuriers. C'est vrai qu'on bouge pas mal. Après, c'est vrai que ça reste quand même des métiers passion. Hein. Ça reste quand même. Je pense qu'on ne serait pas là si ça nous intéressait pas et si ça ne nous plaisait pas.
Donc, clairement, après, c'est pas non plus une raison pour accepter tout et n'importe quoi. Dans tous les cas.
On va arrêter là, je pense, à moins que vous ayez des questions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question dans la salle ?
Moi, je voudrais savoir quelles sont les nouvelles tendances de l'illustration, parce que j'ai l'impression, je suis auteur, donc ça va peut-être pas pleurer à certains éditeurs, que la plupart des couvertures se ressemblent. Comment on sort de la masse ? Comment on fait du neuf ? Comment on crée ?
Alors, pour moi, ça fait partie du travail de graphiste, enfin, pour moi, ça fait partie du travail, en fait, de com, plus que d'illustrateur, vraiment. C'est savoir observer ce qui se fait, aussi bien en France qu'à l'étranger, observer les tendances et réussir à adapter ces tendances, à les intérioriser pour en faire de nouvelles. Là, on voit par exemple, moi je sais que je lis énormément de Young Adult. De Young Adult, c'est la lecture, c'est 15-25, le public, c'est pas vraiment de la jeunesse, mais c'est pas non plus méga sombre, voilà. Je lis énormément ça, et la tendance actuellement à l'étranger, c'est de faire des couvertures avec de la typographie super travaillée. Il n'y a presque plus d'illustrations en tant que telles, il n'y a plus de personnages, ce genre de choses. C'est en train d'arriver gentiment en France, donc ben maintenant, ce qui va arriver en France dans les librairies, c'est voilà, le travail de la typo. Et voilà, c'est ça aussi, de savoir qu'est-ce qui va arriver après cette typo-là, réussir à refaire des tendances soi-même, en fait.
Moi, je n'ai pas forcément une réponse, mais je m'interroge par contre sur le procédé. J'ai l'impression, moi je travaille en traditionnel, peinture à l'huile, pastel sec, et je me demande si quand même le numérique n'uniformise pas tout en fait. C'est un médium formidable, je travaille moi-même, voilà, Photoshop, etc. pour mes mises en page, mais je trouve quand même qu'il y a une uniformisation, parce qu'il y a un outil qui est quand même relativement facile d'abord, et bon... Rapidement, numériquement, on arrive à faire quelque chose de correct. Et souvent, en partant d'une base de photos, etc. Et donc, elles se ressemblent un petit peu toutes quand même. Hein. Et sortir du lot, je pense que sortir du lot, c'est être un réel créateur, en fait. C'est exprimer qui on est. Par exemple, Florence Magnin, on ne peut pas confondre son... Enfin, si vous connaissez, c'est une illustratrice donc, qui a fait de très très belles choses, qui en fait toujours, d'ailleurs. Et bon, en fait... C'est réellement être artiste et avoir sa patte. Mm-hmm. Et ça, c'est le travail d'une vie, en fait. Hein. Et c'est pas un métier, c'est quelque chose de presque impalpable. Et c'est comme ça, je pense, qu'on s'en vit.
On a un peu cet effet de... un effet d'afflux du numérique, parce qu'on a aussi beaucoup cette demande-là. On s'éloigne de plus en plus des techniques traditionnelles. Enfin, moi, c'est un retour que j'ai eu, c'est aussi quelque chose dont j'ai l'impression. C'est quand même assez rare maintenant de trouver des livres qui aient vraiment une couverture traditionnelle. Il y en a quand même, hein, mais ils sont beaucoup plus nombreux. Donc on a aussi cette demande de beaucoup d'éditeurs d'aller vers le numérique. On a aussi ces prix, on a beaucoup discuté tout à l'heure, qui fait que c'est un gros travail, le numérique, malgré tout. Mais ça peut permettre de gagner, des fois, un petit temps qui peut être précieux, voilà, sur la totalité de la commande. Et donc, avec le numérique, il faut trouver sa patte, parce que sinon, on tombe très vite dans une image assez uniformisée. Dès qu'on a notre patte, c'est quand même plus facile. Mais voilà, il faut sortir de ça. C'est un peu... un petit nœud de la création de couverture. Ouais,
dans le numérique, c'est quand même difficile d'inscrire sa patte. Mmh. Il y en a certains dont on reconnaît tout de suite le travail, mais quand même, malgré tout, il faut avoir un œil exercé.
Bah, disons que c'est des trucs qui sont accessibles à tout le monde. Un ordinateur, un logiciel de dessin, une tablette graphique, tout le monde peut s'en acheter et se mettre à dessiner. Et maintenant, avec Internet, il y a des tutoriels accessibles partout, donc tout le monde peut se mettre à ce truc. Et c'est pour ça qu'on a l'impression, enfin moi c'est l'impression que j'ai, qu'on a l'impression que ça s'uniformise, mais pas tant, parce que quand on va chercher chez les pros, enfin il y a quelques illustrateurs et illustratrices que je suis et j'adore et je les reconnais directement, parce que ben pour moi c'est des vrais pros en fait, on les reconnaît directement. Et à côté, ben c'est des gens qui ont besoin de progresser, de trouver leur place aussi.
En fait, ce que tu reconnais, c'est ceux qui ont inscrit, oui, ceux qui ils sont en fait. Oui. C'est-à-dire que qui ils sont transparaît dans leur image. Ce n'est pas des robots, ce ne sont pas des robots qui ont voilà, juste voilà. Il faut vraiment, je pense, pour sortir du lot, il faut inscrire qui on est dans l'image.
Oui, et pas aussi rester planqué sur Internet à vouloir. Ben, quand j'ai fait mes études, j'ai appris les différentes techniques de peinture en peignant à la manière de, qu'à la manière de Van Gogh, de machin, de truc. Et quand on commence à peindre aussi en numérique, c'est ce qu'on fait. On va chercher Sakimi Chan qui est sur DeviantArt et qui est super connue. On va regarder comment elle fait ses lumières, elle met des vidéos de comment elle peint. Ça nous aide, nous, à apprendre la peinture. Après, il faut réussir à se détacher de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal, en fait, qui restent après. Voilà.
Je ne sais pas si ça va être possible pour vous de répondre, mais est-ce que vous avez une idée de la différence de temps qu'il faut pour faire une illustration en technique traditionnelle et une illustration en numérique?
En fait, je ne sais pas. En fait, je vous découvre, donc je ne connais pas votre travail. Je ne sais pas si vous travaillez en traditionnel ou en numérique.
Je faisais les deux avant, mais en fait, c'est beaucoup plus rapide en numérique. Dans le sens où, quand on se trompe, rien que dans le tracé, on peut tout modifier. Si je me rends compte sur mon visage que les yeux ils sont trop rapprochés ou trop petits, même quand le dessin est terminé, je pourrais le modifier. Une peinture, c'est pas possible, on la recommence. Et je disais hier à quelqu'un sur mon stand que voilà, une illustration qui m'a pris 15 heures en numérique, en traditionnel, elle m'aurait pris 2 mois. parce que le temps que ça sèche, le temps de retravailler tous les machins, les couleurs, les trucs, c'est tellement plus facile en numérique parce qu'il y a juste des calques à superposer en fait, alors que là il faut tout penser son truc avant et c'est super minutieux.
Alors, je m'appuie un petit peu en faux parce que enfin, les gens pensent qu'effectivement le numérique c'est plus rapide. Oui, certes, de toute façon, et c'est surtout ce qui est appréciable, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'il y a CTRL-Z, c'est-à-dire qu'effectivement on peut revenir en arrière, vraiment changer la composition, changer le fond, etc. Ça c'est appréciable et le traditionnel on n'offre absolument pas ça, donc il faut bien blinder le truc avant. Mais moi, une peinture à l'huile, je la fais en 3 jours, et encore, j'ai plus mon temps. Ouais. C'est-à-dire que ça dépend des techniques, en fait.
Ça dépend aussi d'à quel point tu maîtrises ce que tu fais, en fait. Je sais que si je retournais sur la peinture, là, aujourd'hui, ça serait une catastrophe, et je passerais des plombes à la faire. Alors que j'imagine quelqu'un qui a l'habitude de faire du traditionnel, qui retourne sur le numérique, ça va être l'inverse, justement. De toute façon, plus on maîtrise son médium, plus rapide on est.
Alors, justement... moi je vais avoir au traditionnel plutôt un travail d'ancrage, donc souvent sur des monochromes ou vraiment juste une couleur, et bah, ironiquement ça me prendra moins de temps parce que le numérique j'utilise principalement pour la couleur, et là c'est vraiment de la peinture numérique, donc ça va prendre plus de temps parce que je prends à peu près la même démarche que pour la peinture, donc ça me prend moins de temps qu'une peinture. Quand je fais de la peinture traditionnelle, c'est plutôt de l'acrylique. Mais ça me prendra plus de temps parce que bah, si je fais une erreur, c'est plus long à corriger que la peinture numérique. Ou c'est beaucoup plus rapide bah, avec les outils que Sandrine a évoqués. Mais voilà, moi sur le traditionnel, j'utilise beaucoup le noir et blanc qui va être finalement un peu plus rapide que mes travaux.
Et au-delà de la rapidité, il y a quand même quelque chose pour moi qui est vraiment très très important, c'est l'original. J'ai vu des dessins de Léonard de Vinci il y a très longtemps au Louvre, et j'ai eu presque un syndrome de Stendhal. Ça m'a fait quelque chose. J'étais à une vitrine, j'étais à 50 cm de ce dessin. Savoir que c'était Léonard de Vinci qui l'avait fait, ça m'a vraiment fait quelque chose, réellement. Émotionnellement, en fait, j'ai presque pleuré. Et voilà. Et pour moi, l'original qui passe le temps, c'est quelque chose d'essentiel. Le numérique, il est sur des clés USB, il était sur des CD. Et puis moi, j'ai des choses qui étaient numériques que je n'ai pas transférées, de disquettes à CD, etc., qui sont perdues pour toujours. Ils sont plus lisibles, on n'a plus les machines, on n'a plus rien du tout. Donc c'est quelque chose qui va s'évaporer dans l'air, des 0 et des 1. Tandis que le dessin, la peinture, eh ben, si on s'y est bien pris, ça va passer le temps, peut-être même des siècles. Alors c'est pas tellement quelque part on s'en moque, mais c'est quand même c'est pas tellement l'idée de passer le temps, mais c'est de provoquer une émotion. C'est-à-dire qu'on peut voir des peintures que l'on connaît, on avait reproduit dans les livres d'art un millier de fois, et lorsqu'on est devant la peinture, il se passe quelque chose. Énergétiquement, en fait, émotionnellement, il se passe quelque chose avec l'original qui n'a pas de prix, en fait. C'est quelque chose de précieux pour moi. L'énergie, quand on crée quelque chose physiquement, il se passe quelque chose avec le support, avec l'objet qu'on est en train de créer. Et ça s'inscrit, pour moi, ça s'inscrit dans la matière. Ben, pas toujours, parce que parfois, on est plus ou moins inspiré, on fait aussi des images, parce qu'on doit faire des images, mais il y a des fois, il y a quelque chose de magique qui se passe avec un original. Et je trouve dommage que ça se perde. Voilà.
Alors, je te rejoins parce que cet été j'ai été à Florence et j'ai vu des peintures magnifiques et j'ai surtout vu des Botticelli que je connais puisque j'ai aussi fait une école d'art. Et quand je suis arrivée devant les Botticelli, j'en ai volé parce que je les ai appris à l'école, j'ai appris à dessiner avec, j'ai appris à faire. Voilà. Et quand je suis arrivée devant ces tableaux, je suis restée. Voilà. Et je pense que j'aurais pu passer 2 heures devant à regarder minutieusement chaque partie. Bon, le problème, c'est qu'à Florence, il y a des milliers de personnes qui viennent, qui passent devant le Botticelli, qui font « Ah, tiens, il y en a un, ça qui sort !»« Bon, d'accord, casse-toi. » Et c'est vrai que c'est magnifique. Et l'objet en lui-même, le tableau en lui-même, ils ont été en plus très très bien restaurés. Ils sont très très beaux. Et l'objet en lui-même, il reste prégnant, quoi. Il donne une émotion, il donne... Au-delà de la technique magnifique de ce peintre, il y a vraiment quelque chose de fabuleux. Et puis, ce n'est pas des tableaux qui ont été faits la semaine dernière, quoi. C'est des trucs qui ont pratiquement 500 ans. Et quand on voit la luminosité qu'il y a à l'intérieur, quand on voit la technique, quand on voit l'âme du dessin et l'âme du tableau, ça, ça touche.
C'est exactement ce mot, c'est l'âme en fait. Et il y a quelque chose de l'âme du créateur et une synergie, et l'objet prend vie en fait. Il y a une vie dans, dans un dessin ou une toile. C'est magique et il n'y a pas d'équivalent en fait. Et toute chose numérique, qui soit sublissime, que ce soit en fait, peu importe, que ce soit très très beau, voilà. La beauté de l'original est irremplaçable à mes yeux.
Est-ce que quelqu'un a une question? Sinon, on va peut-être clore ce débat. Ah ben, on vous remercie d'être venu,
d'avoir assisté. On était tellement clair,
Je vous invite à aller voir les dessins et les illustrations fabuleuses de ces trois artistes. Elles sont en bas dans la salle ou un peu plus loin dans l'entrée. Et je vous remercie d'avoir participé. Bonne journée.
Merci beaucoup. Merci.